Le goût de l'inconnu, par Florent Quellier. Si les Européens découvrent le maïs ou le piment, ils introduisent en Amérique les agrumes ou la canne à sucre. 1492 serait le début d'une mondialisation de l'alimentation par la traversée atlantique de denrées alimentaires. La pomme de terre est d'abord perçue comme un aliment de gueux. Elle inquiète d'abord les Européens par sa ressemblance avec la mandragore, plante des sorcières, puis son statut d'aliment pour les animaux et pour les pauvres la dévalorise. Quant à la pomme d'or, la tomate, son acidité, d'abord associée à une possible toxicité, lui permet ensuite d'être utilisée en Espagne et en Italie dans des sauces. Mais il faudra attendre pour cela la fin du XVIIe siècle, pour qu'elle rentre dans les usages. Dès les premiers contacts avec le Nouveau Monde, les Européens soulignent la luxuriance de la végétation, la fertilité des terres découvertes, l'abondance de denrées alimentaires végétales. Avec l'or pillé, les premiers galions espagnols rapportent à Séville des cabosses de cacao, des grains de maïs, des baies de piment et d'autres plants exotiques. L'arrivée de plantes étrangères est bien loin d'être une nouveauté en Occident. Dès l'Antiquité, des végétaux se sont diffusés en Europe, originaires d'Afrique ou d'Asie, tels le cerisier. Les épices exotiques marquent même puissamment les cuisines aristocratiques médiévales. Mais au lendemain des voyages de Colomb, la situation est radicalement différente. En un laps de temps court, les premiers explorateurs se trouvent confrontés à quantité de nouvelles denrées alimentaires, le maïs et le cacao des Aztèques, la pomme de terre des Incas, mais aussi la tomate, le piment, les poivrons, le quinoa, le manioc, la patate douce, sans oublier de nombreux membres de la famille des cucurbitacées, citrouilles, pâtissons, potirons, et de très nombreux fruits, ananas, avocats, figues de Barbarie, fruits de la passion, goyave, noix de cajou, papaye. Une profusion de nouveautés. Si quelques variétés existaient de part et d'autre de l'Atlantique, comme le haricot, la plupart ont le goût de l'inconnu. Ni d'Ève ni d'Adam, la Bible n'en dit mot. Constat pour le moins troublant pour des contemporains marqués par le fixisme de la création. Ces denrées sont également ignorées des naturalistes antiques, absentes des régimes de santé médiévaux. Quelles peuvent bien être leurs propriétés diététiques? Ces nourritures sont-elles saines pour les Européens? Par principe, le discours médical occidental est hostile aux nouveautés. Un aliment sain est avant tout un aliment familier, alors que tout changement nutritif risque de produire un déséquilibre des humeurs responsables de troubles digestifs. Les médecins sont persuadés qu'une nourriture peut être salubre sous un climat, malsaine sous d'autres cieux. L'argument de la consommation par des indigènes, qui plus est des sauvages non christianisés, n'est donc pas recevable. Bruyérin Champier, en 1560, attribue même l'apparition de nouvelles maladies à l'introduction inconsidérée d'aliments provenant des Indes. À l'exemple d'une pomme de terre qui transmettrait la lèpre, de persistantes rumeurs accompagnent la diffusion européenne des fruits du Nouveau Monde, et les thèses de médecine disputent gravement des vertus et des méfaits des denrées exotiques, surtout de ces boissons stimulantes récemment arrivées, thé, le café, le chocolat. Dans un premier temps, les Européens s'adonnent au jeu rassurant de l'analogie avec ce qu'ils connaissent. Le maïs est un gros épi de céréales, l'ananas, une pomme de pin, le piment, du poivre fort, la patate douce et la pomme de terre, un gros navet à la saveur de châtaigne. Mais à quoi assimiler l'avocat, la tomate, le cacao? Les érudits tentent malgré tout de trouver des liens avec les autorités antiques et médiévales. Étape capitale pour européaniser la plante étrangère, l'analogie est lourde de conséquences pour son avenir culinaire. Un premier cousinage établi avec un végétal décrié entretient durablement une mauvaise réputation. Ainsi, la pomme de terre et la tomate, liées à la sulfureuse mandragore, racine maléfique chevillée à l'imaginaire de la sorcellerie. L'assimilation à l'aubergine, légume identifié à la cuisine juive, dévalorise également la tomate. Même son odeur plaide contre elle. Acre et forte, elle signerait sa toxicité. En revanche, immédiatement perçue comme une épice, le piment profite pleinement de la prestigieuse comparaison avec le poivre. Les Espagnols le nommeront « pimiento de las Indias », le poivre des Indes. La déclinaison masculine de « pimienta », poivre, signifiant la force supérieure de cette nouvelle épice. Quant au maïs, véritable plante de civilisation en Mésoamérique, il est compris de façon positive comme l'équivalent amérindien du blé européen. Néanmoins, annonçant son statut de nourriture du pauvre, il n'est pas comparé au noble froment, mais à de bien secondaires céréales, comme le sorgho, le millet, le panique, le purgatoire du jardin botanique. Débarquées en Occident, ayant traversé l'Atlantique, les plantes précolombiennes connaissent tout le purgatoire des jardins botaniques, princiers et ecclésiastiques. Arrivées comme des curiosités, elles s'échangent à ce titre. Au cours du second XVIe siècle, la pomme de terre, originaire du Pérou, circule comme une singularité botanique de l'Espagne à l'Italie, de l'actuelle Belgique aux États allemands. Certains de ces végétaux américains seront un temps uniquement cultivés comme plantes ornementales à l'exemple de la tomate, la pomme d'or ou d'amour du XVIe-XVIIe siècle, ou le piment, joliment nommé corail de jardin, en France. Dans l'enclos horticole, les plantes nouvellement arrivées sont observées, étudiées et baptisées. On s'intéresse à leur cycle végétatif, à leur plus ou moins bonne résistance aux conditions climatiques locales. Le jardin permet de se familiariser avec elles, de les intégrer dans une proximité avec l'homme afin de les naturaliser. Certaines deviendront des plantes potagères, piments, tomates, d'autres, plus robustes, quitteront le jardin pour être cultivées en plein champ, maïs, pommes de terre. En attendant, le purgatoire horticole peut être particulièrement long, parfois plusieurs siècles. Certains végétaux ne dépasseront jamais le stade de la curiosité, soit pour d'évidentes raisons climatiques, soit pour des questions de goût et de mode culinaire, comme le piment en France, qui n'intéresse pas une nouvelle cuisine qui se détourne des épices alors qu'il s'impose en Espagne et en Italie du Sud dès la première moitié du XVIe siècle. Rapporté par Colomb, le maïs est d'abord cultivé, au cours du XVIe siècle, en Andalousie, en Castille et en Catalogne. On le retrouve également en Italie, la péninsule étant largement dans l'aire d'influence espagnole. En France, le maïs s'implante durablement dans le sud-ouest à partir de la première moitié du XVIIe siècle. Cette acclimatation méridionale tient aux habitudes agricoles et alimentaires préexistantes. La céréale s'intègre parfaitement dans le cycle de rotation des cultures. Profitant de bonnes conditions climatiques, elle offre même des rendements sans commune mesure avec les céréales secondaires autochtones auxquelles elle se substitue. Mais son image pâtit grandement de servir à nourrir les animaux et d'être une céréale de substitution en cas de disette. Également perçue comme une nourriture du pauvre, la pomme de terre partage avec le maïs ses caractéristiques dévalorisantes sans pour autant bénéficier de son statut de céréale. Plante souterraine, terreuse et humide, le tubercule américain est un aliment de gueux, dédaigné par les élites, si ce n'est les jours de mortification alimentaire. Ordinairement, la pomme de terre sert à engraisser les cochons. Elle se substitue aux céréales lors des crises de cherté et entre dans les recettes de riz économique, ces soupes distribuées aux pauvres lors des disettes. Longtemps, sa consommation a été vécue comme une régression, en attendant le retour du pain. Son expansion en Europe, au cours du XVIIe siècle, est largement liée aux misères du temps. Colonisation anglaise en Irlande, guerre de 30 ans, guerre de Louis XIV en Lorraine, en Alsace, en Allemagne. Entre goût et nécessité, le principal obstacle à la diffusion du tubercule américain demeure la primauté des céréales. L'obsession de sa transformation en pain eut comme effet de retarder son acclimatation, la fécule de pomme de terre n'étant pas panifiable. Non seulement il est pensé comme un ersatz de céréales, mais en plus, dans un système agricole entièrement tourné vers la production des blés, les paysans craignent que sa culture ne se développe aux dépens des grains. Ainsi, sa consommation rend nécessaire son exclusion préalable du monde des céréales et l'invention d'une cuisine appropriée, la fadeur de sa chair pouvant dès lors devenir un atout. Les nouvelles plantes vivrières ne sont adoptées que dans la mesure où elles sont compatibles avec les goûts occidentaux et avec les techniques culinaires préexistantes. Le métissage culinaire n'est pas ici imitation d'une cuisine exotique, mais intégration de denrées d'origine américaine dans une cuisine qui reste occidentale dans sa grammaire. Inventer une cuisine appropriée. Chemin faisant, de nouvelles odeurs, couleurs et saveurs culinaires apparaissent néanmoins, se substituant aux céréales secondaires en plein champ. Le maïs les remplace logiquement dans la confection des bouillies ancestrales. De grise, la polenta devient jaune. De même, ce sont la force du piment et son statut d'épice qui intéressent les Occidentaux. Ainsi ignorent-ils grandement ces variétés douces, le poivron. Séché, ces baies relève les sauces d'une Europe méridionale adepte d'une cuisine plus épicée. Facile à cultiver au sud de l'Europe, le poivre du pauvre permet d'obtenir une épice d'un goût modéré. Si le piment entre dans des sauces en Amérique comme en Europe, pour d'autres denrées du Nouveau Monde, une adaptation culinaire se révèle un préalable nécessaire à la conquête de l'Occident. Ainsi, les colons espagnols goûtent-ils peu l'usage aztèque de consommer le cacao broyé avec du piment, tout en étant fascinés par la puissance et la volupté attribuée à la boisson. Une fois l'amertume des fèves corrigée par ajout de sucre de canne, le chocolat européanisé ravit les élites espagnoles du siècle d'or. Depuis la péninsule ibérique, la boisson se diffuse en Occident, notamment par le biais des communautés religieuses. Quant à la tomate, ne ressemblant à aucun des légumes couramment consommés en Europe, elle tarde à accéder à la table. Qui plus est, la culture alimentaire occidentale la disqualifie. Hantée par le spectre de la disette, la population recherche des aliments rassasiants. L'acidité du fruit lui prétend cependant de prétendre au monde des sauces. Cuisinée comme un condiment, elle parvient à s'imposer en Espagne comme en Italie au cours du XVIIe siècle. La première recette d'une sauce tomate sera même imprimée en 1692, 200 ans après la découverte de l'Amérique. Cette épopée des plantes vivrières ne se fait pas uniquement dans le sens Amérique-Europe. Les cuisines précolombiennes entrent dans une phase de métissage du fait de l'introduction de nouvelles denrées alimentaires, de nouvelles techniques culinaires, la friture, et surtout de la confrontation directe avec la culture alimentaire de l'envahisseur espagnol. Pour leur approvisionnement, les Européens font traverser l'Atlantique des plantes d'origine africaine, d'Europe, d'Asie, comme les agrumes et surtout la canne à sucre et le caféier. C'est moins par ces plantes indigènes que le Nouveau Monde a joué un rôle immédiat dans l'histoire de l'alimentation européenne qu'en permettant un premier boom sucrier et en répondant à une demande accrue en café. Dès le XVIIIe siècle, le goût du réveil a changé pour nombre d'Occidentaux vivant en ville. Les boissons exotiques sucrées concurrencent le vin et la soupe du matin. Elles tendent également à concurrencer le vin pour les moments de sociabilité. Les Occidentaux diffusent également, en Afrique et en Asie, nombre de plantes américaines comme le manioc ou le piment. Dépicées, des cuisines africaines et asiatiques vont devenir pimentées. 1492 se trouve ainsi aux prémices d'une première forme de mondialisation alimentaire orchestrée par les puissances maritimes européennes entre quatre continents et d'un lent métissage culinaire discuté pour l'Amérique espagnole, occulté pour l'Occident. Et pourtant, imagine-t-on aujourd'hui une cuisine authentiquement provençale sans tomates? Basque sans poivron, calabraise sans piment, belge sans pommes de terre, même le cassoulet, plat de terroir s'il en est, est confectionné avec des haricots d'origine précolombienne. Au musée des cultures de la ville d'Oaxaca, au Mexique, on peut voir une représentation, un tableau de la scène après 1492. Dans ce dernier repas de Jésus-Christ, on y voit, mêlés aux autres fruits connus, des fruits et des légumes du Nouveau Monde, poivrons, tomates, pommes de terre, peinture ô combien exotique et bien révélatrice de ce qu'on pourrait appeler de l'assimilation.